Donc, je vous remercie d'être venu pour ma dernière année de cours. Mais en fait, vous êtes un peu en retard. La dernière année de cours a eu lieu l'an passé où j'ai fait une espèce de panorama des découvertes dans les domaines dont je m'occupe depuis une quarantaine d'années. Cette année, c'est quelque chose de beaucoup moins ordonné et peut-être de plus nouveau d'une certaine manière. Il se trouve que l'on m'a demandé de revenir au Gandhara et que j'ai entamé une nouvelle recherche. Vous aurez quelques balbutiements de cette recherche dans cette série de cours. Mais d'abord, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, dans la salle 2, M. Vincent Etchinger, qui, bien qu'il soit professeur à l'Université de Vienne, est un Lausannois et donc parle le français, fera une conférence sur réflexion pure et volonté apologétique chez les derniers philosophes bouddhiques indiens. Pour ceux que la philosophie bouddhique intéresse, il s'agit des grands logiciens de type Dignaga et Dharmakirti, qui se sont opposés aux philosophes hindous. L'un des avantages de M. Etchinger, qui est un grand savant, c'est qu'il emploie un vocabulaire à peu près compréhensible, ce que ne font pas tous les philosophes. La même semaine, nous aurons, après un Lausannois qui est à Vienne, nous aurons une Italienne qui est également à Vienne, mais ça, ce ne sera pas au Collège de France. Madame Anna Filigenzi, qui a beaucoup travaillé dans le SWAT, dont on parlera beaucoup pendant ce cours, et qui dirige maintenant la mission italienne en Afghanistan, à Razni, qui est en inactivité, mais qui a quand même un directeur, fera une conférence à l'École normale supérieure le vendredi 11 mars à 17h, sur un titre qui s'appelle « La montagne et le lotus », qui ne veut rien dire, mais dessous, il y a un sous-titre, qu'il s'agit d'une recherche archéologique sur les traits du bouddhisme médiéval dans le Swat et à Gilgit, c'est-à-dire d'une étude des sculptures et des trouvailles qui ont été faites par la mission italienne dans le Swat et par la mission italienne dans le grand site bouddhique de Tepe Sardar à Razni, et qui date du 6e, 9e siècle, c'est-à-dire d'une époque où, d'après les sources tibétaines en tout cas, le bouddhisme était devenu tantrique, puisque c'est dans le Swat que les moines tibétains sont venus chercher un certain nombre de textes. C'est la conférence, finalement, va commencer là où moi je vais m'arrêter cette année. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, sur l'organisation de ces cours. Le cours lui-même, c'est-à-dire la première heure, celle qui commence aujourd'hui, je vais essayer de le faire compréhensible. Il n'y a pas de choses techniquement très, très difficiles à comprendre. Ce sera une mise au point sur un certain nombre de découvertes qui ont été faites depuis une vingtaine d'années et qui sont extrêmement importantes, mais qui ne seront pas relatives seulement au bouddhisme ni seulement à l'art du Gandhara, bien qu'il en soit question. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et puis, il y a le séminaire où je traiterai de questions extrêmement arides, pas très drôle, en particulier celle des airs par lesquels ça va commencer, très technique et sur lequel il n'y aura aucune conclusion sûre, sauf que tout ce qu'on nous raconte est extrêmement incertain, ce qui est déjà quelque chose de gagné. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé que le séminaire ait lieu dans une salle plus petite où on peut faire circuler des documents. C'est ce qui se passera dans 3 semaines. Et comme vous avez été très nombreux aujourd'hui, on vous a mis dans une salle plus grande, mais que nous devons libérer d'ici une heure. Donc le séminaire de cette année, le premier séminaire, aura lieu en salle 2. Il va falloir déménager. Mais moi, je ne vous conseille pas de tous déménager parce que vous allez vous ennuyer un peu pour le séminaire. Et oui, c'est comme ça. Hein. C'est très. C'est d'ailleurs parce que c'est ennuyeux que toute ma vie, j'ai dit que je refusais de m'occuper du Gandhara, bien que finalement je n'ai fait que ça. Et lorsque mon patron, que je respectais beaucoup, Daniel Schlumberger, m'a proposé de faire une thèse sur l'art du Gandhara, j'ai regardé un peu de quoi il était question et je lui ai dit tout de suite non, et c'était un grand patron, il ne s'est pas vexé. Mais j'en ai trouvé un autre pour ma thèse, malgré tout. La raison pour laquelle je ne voulais pas m'occuper du Gandhara, c'est que c'était surtout à l'époque devenu un sujet bateau, où les gens se battaient sur l'origine romaine, l'origine grecque, l'origine iranienne de l'art du Gandhara, tout ceci à partir de deux ou trois sculptures et non datées, parfois même non localisées, et on en tirait des conclusions générales sur un art qui a quand même duré au minimum quatre siècles, probablement cinq, et qui a livré une dizaine de milliers de sculptures. Et la seule question était de savoir s'il y avait, si sa création était due à des artistes romains ou à des artistes grecs. Personne, d'ailleurs, ne se posant le problème des artistes indiens jusqu'à un remarquable article de Madame Lawson de Louvre paru dans South Asian Archaeology. Les Indiens, ça n'existait pas. Et tout ça, bon, ça, c'était une première raison. Je ne voyais pas du tout pourquoi je me lancerais dans un sujet de ce type qui, par définition, n'avait pas de solution. Ce n'est pas parce qu'une sculpture a des parallèles à Rome que toutes les sculptures indiennes, toutes les sculptures du Gandhara doivent venir nécessairement d'une inspiration romaine. Et inversement, ce n'est pas parce qu'une sculpture a des caractéristiques hellénistiques que toutes les sculptures du Gandhara doivent venir nécessairement de l'influence grecque. Schlumberger a fait les choses de manière quand même un peu plus intelligente, mais le débat revenait à cela. La preuve que le débat était si si stérile, c'est que lorsqu'on s'occupe de l'art du Gandhara, surtout lorsqu'on est français, mais la plupart des collègues étrangers qui s'occupent de l'art gréco-bouddhique du Gandhara lisent le français, ils sont obligés de le lire parce que ce qui a l'essentiel a été dit dans le livre dont je vous donne le titre ici, Alfred Fouché, l'art gréco-bouddhique du Gandhara, dont le premier volume est paru en 1905, le second en 1918 et le troisième en 1951, le troisième étant les index et quelques addenda. Et effectivement, quand vous regardez la littérature, vous apercevez que on ajoute toujours du nouveau, mais que l'essentiel se trouve là et que lorsqu'on commence une recherche, on commence par Fouché. Alors, c'est quand même un peu décourageant quand on a 20 ans de se dire qu'on ne fera pas mieux que Fouché. Quand on a mon âge, on se dit que c'est normal qu'on ne fasse pas mieux, mais à 20 ans, non. Donc, ce n'était pas quelque chose. Et la preuve de ce que je dis, c'est que les Français, de ce que je dis est à peu près vrai, c'est que les Français ont la manie des bibliographies. Et il existe deux bibliographies en français. L'une qui est très connue, qui est celle d'Henri Dédier, qui s'appelle « Contribution à l'étude de l'art du Gandhara » qui est paru chez Maisonneuve en 1950. Et Dédier a été assez intelligent, si j'ose dire, pour tout de suite quitter le Gandhara et partir au Cambodge, où malheureusement il est mort, au Laos, où malheureusement il est mort dans un accident d'avion. C'est quelque chose de très bien fait. C'est une biographie critique, et comme c'est bien fait, ça a été repris, ou plus exactement, c'était poursuivi par M. Pierre Guenet, aidé de Francine Tissot, et pour un chapitre tout à fait à part par M. Calieri, qui donne la bibliographie analytique des ouvrages parus sur l'art du Gandhara entre 50 et 93, c'est-à-dire après Guenet. Moi, j'ai jamais eu le j'ai jamais vu la nécessité d'utiliser ces bibliographies. Quand on les feuillette, on s'aperçoit que 95% des articles sont périmés, méritent plus d'être lus, et que le reste, ce sont des articles bien connus. Alors, il faut choisir. C'est quelque chose que je dis depuis longtemps, que je peux me permettre de dire parce que je suis en fin de carrière et que je n'arrive pas à faire, d'ailleurs. C'est que je pense qu'une discipline comme l'archéologie ou l'indianisme en général, et même peut-être toutes les disciplines littéraires, ne peuvent plus continuer sur la lancée académique et érudite qu'elles avaient. Si on demande aux jeunes gens de 25 ans de citer tous les mauvais articles qui ont été publiés depuis un siècle sur le sujet qu'ils étudient, eh bien, en général, ils vont les citer sans les avoir lus, ce qui est intelligent, et s'ils les lisent, eh bien, ils n'ont pas le temps d'écrire. Je crois que l'une des grandes choses que m'a apprise ici même, pas dans cette salle, mais dans une salle plus petite et beaucoup moins belle, mon maître Louis Robert, c'est qu'il faut nettoyer l'érudition de toutes ces branches mortes, de ce qui ne sert à rien. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai la réputation d'être quelqu'un d'assez méchant dans mes comptes rendus, mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi l'on continuerait à lire des articles ou bien mal informés, ou bien qui ne servent à rien, ou bien qui apportent des hypothèses invérifiables. Il est évident que nous avons tellement de choses à lire qu'il faut que nous ne lisions que l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est toujours Fouché, mais à côté, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Je me demande comment fonctionneraient nos collègues physiciens et biologistes s'ils devaient, pour écrire leur thèse, encore citer les auteurs du 19e ou même du 20e siècle. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les savants. Ou bien il y a un socle de connaissances qui est admis, et de même que l'on ne cherche plus à prouver, quand on écrit un ouvrage de géométrie, on ne cherche plus à prouver le théorème de Pythagore. Eh bien, de même, en sciences humaines, si on veut progresser, il faut admettre qu'il y a un socle de connaissances admises, vérifier, prouver, ce qui est déjà beaucoup plus dur, et puis qu'on progresse à partir de ce socle et qu'on ne le remette pas sans arrêt en question. Alors, je n'ai pas l'habitude de donner beaucoup de bibliographies. Je vous en donne trois au départ. Si vous voulez des bibliographies complètes, vous voyez Guenet et Dédier. La base, c'est l'art gréco-bouddhique du Gandhara. Ben, pas de problème. Tout est là-dedans. Hein, tout est là-dedans. Le reste, ce sont deux choses que je vous donne pour comme petite addition. Le premier, c'est un article que j'ai écrit en 91 qui est maintenant tout à fait vieilli, parce que depuis 1991, on a trouvé des textes gandhari dont je vous parlerai au Bajaur et dans la région de Hadda. Et les perspectives sont très différentes. Les conclusions que j'ai dressées en 1991 ne sont pas dépassées, mais la formation l'est en partie. Mais vous avez là une idée de ce qu'est le Gandhara et de ce que le bouddhisme a pu
y avoir comme rôle, avec simplement le fait que je me rends compte maintenant à quel point les monuments étaient intacts quand les Britanniques ont commencé à les piller par souci de connaissance, si j'ose dire, et de beauté à la fin du XIXe siècle. L'autre chose que je vous signale, ça vous évite d'avoir recours à Dédier, c'est ce livre de M. Nélis, dont vous voyez qu'il vient de paraître et dont le titre ne correspond pas tout à fait à ce qu'il y a dedans. Alors, M. Nélis est l'un des jeunes et brillants savants que Richard Solomon a formé à Seattle, dans l'État de Washington, pour l'édition, le déchiffrement et l'édition de ce qu'on appelle maintenant les manuscrits Gandhari du British Museum, qui ont été découverts dans la région de Peshawar, qui ont été apportés à Peshawar et de là acquis par le British Museum. Et M. Solomon a eu le grand mérite de réunir autour de lui une équipe de jeunes savants et de publier ces manuscrits dont je vous parlerai extrêmement vite et extrêmement bien. Ces savants se retrouvent avec des doctorats et comme le Gandhara s'intéresse beaucoup de gens dans le monde, mais la langue du Gandhara beaucoup moins, surtout que les textes qu'ils publient ne sont pas d'une beauté extraordinaire, une partie de ces jeunes savants se retrouve sans poste fixe et court les universités avec le système qui est maintenant généralement admis aux États-Unis et en Europe et en train de s'implanter en France, le système des bourses de 1, 2 ou 3 ans. Alors, M. Nélis a profité d'une de ces bourses dans un centre qui a été créé de toutes pièces par les Allemands, en détruisant d'ailleurs des centres qui existaient avant, à l'université de Bochum, centre créé en 2008 pour explorer l'histoire des religions. Et le résultat de son séjour à Bochum, ça a été ce volume qui paraît dans une série qui s'appelle Dynamics in the History of Religion, volume 2. Alors, le point de départ, c'est la façon dont les textes bouddhistes ont été transmis en utilisant les réseaux de commerce. C'est le titre. Il n'est quasiment pas question de transmission des textes du bouddhiste et il n'est pas question non plus des réseaux de commerce, en tout cas pas de la façon dont moi j'entends un réseau de commerce. Ce que M. Nélis fait, c'est l'histoire des diverses routes qui ont traversé l'Inde et qui ont mené de l'Inde vers l'Asie centrale et vers l'Asie du Sud-Est. Alors, ça n'apporte rien de nouveau. Ce sont des choses qui sont connues, pas toutes depuis longtemps. Enfin, moi, ce sont des choses que je connaissais et qui m'ont toujours paru sans grand intérêt. C'est-à-dire dire qu'il y a une route nord-sud en Inde et qu'elle passe par Sanchi et qu'elle va vers Nasik. Il suffit de regarder la carte. On a des points. Si vous les rejoignez par des lignes, vous avez des routes. Bon, vous vous apercevez que ces sites sont mentionnés dans les textes anciens. Et puis, ça vous fait une route. Ça ne vous apprend rien sur la route. La seule chose qui vous apprenne ce que c'est qu'une route indienne, ce sont des choses qui, sauf exception, ne sont plus faisables, mais il y a quand même quelques exceptions, c'est-à-dire de les faire à pied ou à cheval, en fermant les yeux et en se demandant comment pouvait être le paysage il y a 2000 ou 3000 ans. Alors, dans la plaine indienne, évidemment, ça n'est plus possible. Mais c'est encore possible sur la route de Gilgit par... c'est-à-dire la route qui part de la région par ici. En général, le meilleur aspect maintenant, c'est partir d'Islamabad par le Hazara qui passe ici et qui, après avoir atteint Gilgit à peu près à cet endroit-là, descend sur Yarkand et puis vous pouvez aller vers Kashgar et vers Khotan, c'est-à-dire la route sud du Xinjiang. Celle-ci, on l'a fait en jeep, mais comme la route est souvent bloquée, on l'a fait aussi à pied. De même, la route entre Peshawar et Bactre via Bamiyan et les autres cols qui sont là, le paysage n'a pas beaucoup changé parce que c'est du rocher. Et à ce moment-là, vous apercevez quelles sont les difficultés et ce que représente un voyage. Et vous pouvez vous faire une idée de ce qu'a pu être le commerce le long de ces sentiers de montagne. Alors, on a beaucoup de données dans un livre qui est un peu le modèle pour Nélis, mais c'est un livre de Fouché qui s'appelle « La vieille route de l'Inde de Bactre », c'est-à-dire d'ici à Taxila, c'est-à-dire à Rawalpindi, Islamabad, hein, qui effectivement a fait l'historique de cette route. Et c'est un livre qui comporte une partie de correspondance, depuis édité une deuxième fois par l'Académie d'inscription et belles-lettres, qui indique effectivement la difficulté de la route à cheval, parce que Fouché a aussi voyagé à cheval. Et l'autre, c'est la grande découverte de Karl Jettmar en 1978 le long de la Karakoram Highway, c'est-à-dire la grande route qui maintenant relie le Kashgar au Pakistan à travers le Karakoram et l'Himalaya, où là, nos collègues allemands ont découvert des milliers d'images et des milliers d'inscriptions qui permettent effectivement de retracer l'historique de cette route entre le 1er siècle, le début du 1er siècle de notre ère et en 720 à peu près, ou 700, qui est le moment de la conquête tibétaine, avec une masse de noms indiens et non indiens qui permettent d'identifier les gens. Nos collègues allemands ont publié ça très rapidement et de façon exemplaire sous la direction de Dieter Bandini. Et comme c'était trop bien, le gouvernement allemand a coupé les crédits et donc il reste 4 volumes à publier. Et on ne sait pas ce que ça va devenir. Parce que maintenant, dans la recherche en sciences humaines, il faut avoir terminé les projets de recherche en 3 ans. Et ça, c'était un projet de recherche qui avait commencé en 1978, c'est-à-dire c'était 10 fois trop de temps. Avec les financements actuels de la recherche, on ne pourra plus jamais faire un dictionnaire, parce qu'un dictionnaire, ça ne se fait pas en 3 ans. Bon, ça, c'est une chose. Donc, vous ne trouverez pas ça dans ce livre de M. Nélis, mais si je vous le recommande, c'est que Nélis est quelqu'un qui a beaucoup lu, et qui a lu de façon intelligente. C'est un garçon très intelligent. Il a aussi un peu travaillé sur le site de Hunza el-Dekish, qui est ici, se trouve au nord de Gilgit. Il lit très bien la Karoshti, il connaît les inscriptions, il aime ça. Et vous trouverez dans son volume et dans les notes à peu près toute la bibliographie à jour et sélectionnée et commentée, traitant des itinéraires qu'il évoque. Et ça, il y a peu de livres qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. À mon avis,
Le titre vient surtout du fait qu'il a été obligé, comme ayant été payé par un programme international d'histoire des religions, il a fallu que son titre fasse, et son programme d'ailleurs, soit un programme de diffusion des religions et de perspective historique sur ces diffusions des religions. Et le cas du bouddhisme qui naît dans le Bihar a irrigué tout l'Afghanistan, tout le Xinjiang, et ensuite la Chine, le Japon et la Corée, c'est effectivement un excellent exemple de diffusion du bouddhisme. Mais pour étudier ça, il faut voir peut-être un peu plus les inscriptions et les textes. Et ça demande des ouvrages d'un autre genre, beaucoup plus spécialisé, dont l'un des modèles est le livre de Tsurcher qui s'appelle « The Buddhist Conquest of China ». Les dernières, puisqu'il faut se faire de la publicité, vous aurez au mois d'avril la publication par moi-même et par Éric Olivier des inscriptions de Termez qui indiquent comment aussi et sous quelle forme s'est faite cette pénétration du bouddhisme dans la région de Termez qui est ici. Est-ce qu'on peut agrandir, tiens? Ah, mais c'est mieux quand on agrandit quand même. Là, c'est un peu trop agrandi. Je vais baisser quand même. C'est une vieille carte du Reader Digest que nous utilisons toujours parce qu'elle amplifie le relief. Donc, vous voyez, Termez est ici et c'est la route obligatoire pour passer soit par là, et en général plutôt par là, pour aller au Xinjiang par le Pamir. Cette carte que vous avez vue souvent, elle est pratique parce que donc, les altitudes sont magnifiées. On voit très bien l'énorme massif montagneux. Et puis, il y a des couleurs dont on a l'impression qu'elles correspondent... qu'elles correspondent à l'utilisation des terrains. Par exemple, ça, on a l'impression que c'est du terrain agricole, alors que ceci est un peu moins agricole et que ceci est tout à fait du désert, alors qu'en fait, elles correspondent surtout à des différences d'altitude. Enfin, c'est une carte parlante. Bon, revenons maintenant littéralement au Gandhara. Et pourquoi j'en parle cette année? Alors évidemment, après l'exposition qui a eu lieu au musée Guimet et le catalogue qu'en a fait M. Cambon, j'arrive un peu comme les carabiniers italiens, c'est-à-dire un peu en retard. Mais enfin, j'en ai quand même parlé un peu l'an passé. Mais je dois dire que le problème de l'art, bien que j'en parle, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas que je n'y sois pas sensible, ce n'est pas que je ne trouve pas qu'il y ait des pièces très belles. Il y a deux problèmes qui me gênent. Le premier, c'est que c'est quand même un art que nous apprécions vu de l'Ouest. Presque toute la littérature sur le Gandhara est le fait d'Européens ou d'Américains. Les Indiens s'y intéressent pas beaucoup. Ça correspond à notre esthétique. Et d'une certaine manière, c'est un point de vue colonial sur l'Inde. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui... la civilisation grecque dont nous continuons à nous réclamer de 1500 ans après Périclès et Socrate... a conquis le monde entier, en tout cas le monde habité à l'époque. Elle a conquis l'Inde et a produit en Inde ce qu'il y a de mieux, le reste étant un peu de la sculpture dégénérée. C'est à peu près comme ça que s'exprimaient les Britanniques,
peut-être en des termes plus choisis, à la fin du XIXe siècle, mais c'était en tout cas leur pensée. Pas celle de Fouché, mais c'était quand même leur pensée. C'est quand même assez gênant, parce que l'art indien, ça n'est pas que cela, même s'il a été fortement influencé, en tout cas en ce qui concerne l'art bouddhique, par l'art du Gandhara, et même si l'art du Gandhara, vous verrez, a été l'un des vecteurs essentiels de l'art indien vers l'Asie centrale, la Chine et le Japon. Mais ça, c'est la première chose pour laquelle ça me gêne un peu de parler d'art. Et d'autre part, il se trouve que j'ai connu deux grands historiens d'art très différents. L'un, c'était Madame Lauzun de Louvre, qui a sans doute été le plus grand historien d'art du XXe siècle. Et l'autre était Daniel Schlumberger, qui travaillait de toute autre façon, mais qui était des gens solides. Pour être historien d'art, il faut avoir un œil. Un œil et une mémoire visuelle. C'est tout à fait clair. Quand vous avez travaillé avec un ancien, avec un grand maître de l'histoire de l'art et que vous avez vu comment il travaillait, ce sont des gens qui, dont l'œil sait saisir des différences extrêmement minimes ou au contraire faire des rapprochements à partir de choses qui, vous, ne vous paraissent pas évidentes et dont ils vous prouvent qu'ils sont évidents et qui ont dans leur tête et non pas dans leur ordinateur des milliers d'images qui leur viennent immédiatement à l'esprit quand ils voient une image. Bon, moi, je ne suis pas comme ça, je ne sais pas voir. Je sais lire, mais je ne sais pas voir. Alors, ne sachant pas voir, c'est assez difficile pour moi de faire de l'histoire de l'art. Et quand je fais de l'histoire de l'art, je fais de l'histoire de l'art d'une façon qui hérisse mes collègues, quasiment sans regarder les sculptures, ce qui m'est arrivé une fois, ça m'a joué un sale tour, tout simplement à partir des inscriptions et à partir des monnaies associées. Et ce qui me permet de donner une échelle de datation, mais ce qui ne permet certainement pas d'évaluer les qualités artistiques d'une œuvre, ni l'influence qu'elle ait pu avoir sur d'autres. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que si... Si vous regardez à nouveau cette carte, vous en verrez un certain nombre d'autres. Le Gandhara, qui est cette toute petite région sur laquelle je reviendrai ici, c'est la pointe nord extrême de ce que je dirais l'Inde utilisable, parce qu'à partir du Gandhara, on bute sur les montagnes. Et pour ou bien pénétrer en Inde, ce qui a été le cas de la plupart des mouvements de peuplement de l'Inde, autant qu'on peut les suivre depuis le deuxième millénaire avant notre ère, autant pour pénétrer en Inde que pour en sortir, ce qui a été le cas du bouddhisme et ce qui a été le cas des marchands indiens jusqu'au XIXe siècle, il faut passer par là, ou alors il faut passer par ici, mais cette région-là, qui est passable, est beaucoup plus difficile à passer. Si nous en avons, par hasard ou par bonheur, un exemple militaire dans l'Antiquité, puisque nous avons le récit de la conquête d'Alexandre, avec le récit des difficultés et des paysages dans le passage aller, qui s'est passé à peu près par ici, puisque Alexandre a pris, enfin, Héphaïstion a pris Tcharsada, et puis le passage retour, qui s'est passé pour les troupes d'Alexandre par Quetta, et pour sa flotte et une partie de l'armée par la côte. Et on voit très bien que la partie la plus dure, les routes les plus dures, c'était les routes sud, parce qu'il y manquait et de l'eau et de la nourriture. Ça, c'est un point de passage obligé, non pas parce que c'est le plus facile, le passage sud est physiquement plus facile, mais parce que lorsque l'on voyage à pied ou à cheval, eh bien... La grande difficulté, ça n'est pas de marcher,
la grande difficulté, c'est lorsqu'on arrive à la fin de l'étape, de pouvoir boire, de pouvoir manger et de pouvoir donner à manger aux bêtes. Vous verrez tout à l'heure que ce tout petit terrain est à peu près le seul dans tout le nord de l'Inde, qui s'appelle maintenant le Pakistan, puisque vous avez la limite du Pakistan qui est ici, où l'on peut se reposer, on peut laisser les bêtes se réengraisser, etc. Donc, c'est quelque chose que nous verrons. Ça a été, de ce point de vue-là aussi, le point de départ de toutes les conquêtes étrangères de l'Inde, et Dieu sait s'il y en a eu. Si je vous les énumère brièvement, mais on reviendra peut-être dessus, il y a d'abord eu les fameux Indo-Européens, et puis il y a eu les Perses achéménides, il y a eu Alexandre, il y a eu les colons grecs qu'Alexandre avait laissés en Bactriane, qui eux-mêmes ont été chassés par, à la fois par des gens venus de cette région qu'on appelle les Indopartes et des gens probablement venus de cette région ou par celle-ci, par Tashkent, qui sont les Saka, les Kouchans. Et puis ensuite, il y a eu... les Arabes sont passés par ici, mais très rapidement, les conquêtes musulmanes et turques se sont faites à partir de la région de Razni, c'est-à-dire d'ici, et la conquête morole aussi. Et si les Britanniques ont tenu à s'installer à Peshawar, c'est qu'ils fantasmaient sur une conquête russe passant par là. Vous voyez que si on veut faire une espèce d'historique du peuplement de l'Inde, il est difficile de choisir un endroit plus adapté à cela que le cul-de-sac que représente le Gandhara. Et le poids géopolitique de la région a été extrêmement considérable parce que les derniers envahisseurs savaient qu'ils n'étaient que les avant-derniers, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une dernière vague qui arrivait et qui les chasserait eux-mêmes. Ce sont des événements qui, pour les événements aux alentours de notre ère, se sont passés au rythme d'une invasion tous les 50 ou tous les 100 ans. Donc les gens nouvellement installés avaient tout à fait intérêt à se protéger des futures invasions. Il y a donc eu la construction d'un certain nombre de villes qui représentaient des points fortifiés. Et celle que l'on connaît le mieux n'est pas au Gandhara, mais était à deux journées de marche de Gandhara. C'est Taxila qui est ici. Ce qui est sur la carte marqué par Islamabad et Rawalpindi. Taxila est au milieu. Ces trois villes sont simplement une seule et même ville qui a changé d'emplacement au cours des temps. Et si vous lisez les récits des Britanniques à la fin du XIXe siècle, le choix de Rawalpindi comme capitale du nord de l'Inde, c'était un choix militaire. C'était l'arsenal et la base de repli des Britanniques contre toutes les invasions qui pouvaient venir du nord. Et lorsque l'on a invité le roi d'Afghanistan, l'émir d'Afghanistan, à visiter l'Inde, ce qu'on lui a fait visiter en premier, ça a été l'arsenal de Rawalpindi, où loge encore d'ailleurs le gouvernement pakistanais. Monsieur Bhutto était dans une caserne de Rawalpindi, il n'habitait pas Islamabad, qui est une capitale moderne. Donc, il y a eu là un certain nombre de grandes villes dont on suspecte que certaines ont été des capitales. Ça a été le cas des capitales indo-grecques, avec Pushkalavati, qui s'appelle maintenant Charsada. Ça a été le cas de la capitale Kushan pour Ushapura. On n'est pas sûr que ce soit une capitale. Ça a été la base de repli de toutes les dynasties afghanes
de l'Inde, et ça a eu beaucoup de poids à l'époque britannique. Et puis, pour ce qui m'intéresse un peu plus, parce que c'est mon sujet, je ne dis pas que c'est plus intéressant, mais enfin, c'est quand même ma spécialité, c'est quand même à partir de là que nécessairement le bouddhisme s'est répandu en Asie centrale et en Chine, avec trois vecteurs dont nous reparlerons. Le premier, c'est l'écriture karoshti. Le second, c'est la langue qu'on appelle la Gandhari. Et le troisième, c'est la sculpture, c'est l'art grec bouddhique du Gandhara. Alors, les limites du Gandhara sont un sujet dans la littérature depuis 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans seulement. Voici la carte qui a été publiée par une très bonne connaisseuse de l'art du Gandhara, Madame Tissot, en 85, qui est la carte des sites archéologiques du Gandhara. Alors, c'est une carte qui est très bien faite pour les gens qui cherchent les sites, à peu de choses près, sauf que ici, vous avez une limite de gris que vous voyez là et qu'on voit très peu sur la carte. Pardon, je vais vous la sortir. Elle est ici. On la voit très très peu sur la carte. Voilà. Et cette limite sépare les régions qui ont plus de 1000 pieds, c'est-à-dire 304 mètres. C'est assez bizarre. En réalité, en tout cas dans cette région-là, cette limite, c'est une véritable muraille. Vous arrivez ici, on va agrandir un peu. Vous arrivez ici au pied de la Malakande, qui permet d'aller dans la vallée du Swat. Et vous voyez la fin de la montagne sur la carte ici, c'est une muraille de 1000 mètres verticale. Ça n'est pas rien. Vous avez un contraste terrible entre les montagnes et la plaine. Contraste que la carte suivante. Marche plus. Bon, ça ne fait rien, on va prendre ça. Vous montrera un peu mieux. C'est une carte de M. Huntington où il y a des fautes, par exemple Badjour, pourquoi il écrit Badjour au lieu de Badjaour, mais où vous avez quand même la sensation un peu plus physique, un peu plus visible de ce que représente le Gandhara, c'est-à-dire la région qui est en blanc ici. Pas du tout la région des montagnes, donc vous voyez que, en tout cas, ici, elle porte d'autres noms, le Swat, le Bunner, le Badjaour, le Nouristan, et qui correspond donc à la rive droite de la rivière de Kaboul, qui est ici, et à la rive gauche de la rivière de Kaboul, avec tous ces affluents qui descendent de la montagne, et qui s'arrête ici à Atok, à l'endroit où la rivière de Kaboul rejoint l'Indus. Et jusqu'ici, l'Indus est assez large, mais là, il rentre quasiment dans des défilés. Taxila, c'est ici, c'est-à-dire assez loin. Taxila, même si culturellement il a été très influencé par le Gandhara, ne fait pas partie du Gandhara. Le Gandhara, c'est uniquement cette toute petite région qui a pour limite sud-est le cours de l'Indus jusqu'à Atok, de la montagne, du barrage de Tarbella jusqu'à Atok, et pour le reste, le bassin de la rivière de Kaboul, hors montagne, bien que ici, un peu au sud de Kohat, vous ayez également quelques sites. Mais la grande densité des sites, il suffit de regarder la carte, pour le Gandhara, c'est ceci. Alors, quand je parle de ces limites, c'est-à-dire qui commencent ici à Jamrud, qui est la dernière forteresse sur la route de Kaboul, qui vont donc jusqu'à Atok, qui ici s'arrête à peu près à la passe de Kohat, et qui au nord s'arrête à la passe de Malakand, ce ne sont pas des limites que j'invente pour le plaisir. Ce sont des limites que nous connaissons depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Vous avez une première source qui est tout à fait claire, c'est le récit de la conquête du nord-ouest de l'Inde par Alexandre, où l'on commence par prendre une première capitale, qui est Charsada, et ensuite Alexandre, qui est Charsada. Charsada, ça se retrouve... on va vous agrandir ça, comme ça. Voici, sur la rive gauche de la rivière de Kaboul. On prend donc cette capitale. C'est là que les deux parties de l'armée d'Alexandre se rejoignent. Et Alexandre, accompagné du roi Taxil, ensuite part, traverse l'Indus et va à Taxila, qui est un royaume différent. Et le début du royaume de Taxila, c'est l'endroit où l'on peut traverser l'Indus relativement facilement, parce qu'il s'étale dans la plaine. C'est quelque part entre Ound et Atok. Ça, nous l'avons. Et Xuanzang, quand il décrit son voyage, c'est-à-dire vers 650, je crois, vers 630, excusez-moi, en 631, Xuanzang décrit le Gandhara, qu'il appelle dans la transcription de Waters Cantolo, comme exactement ce que je viens de vous dire, et donne les mêmes dimensions à peu près que celles que je vais vous donner, c'est-à-dire 1000 lits d'est en ouest et 90 km, pardon, et 800 lits du nord au sud, et il indique que l'Indus est la frontière sud. Si vous regardez une carte du Pakistan aujourd'hui, vous verrez que l'Indus, effectivement, reste la frontière entre ce qu'on appelait jadis la Northwestern Frontier Province, qui maintenant s'appelle Khyber Pakhtunkhwa, exactement comme on est en Inde, Khyber Pakhtunkhwa, et la province du Nord Punjab. Et de même, vous avez, pendant toute l'histoire, vous avez des toponymes qui s'opposent tout à fait directement. Et lorsque Xuanzang est passé en 631, il indique ce qui nous intéresse, qu'il y avait environ 1000 monastères. Vous en avez un certain nombre qui restent là. Tous ces points représentent des monastères avec des stupas, des sites bouddhiques. Ce n'est qu'une partie de ceux qui existaient. Et il dit qu'ils étaient tous entièrement ruinés et entièrement vides. C'est-à-dire qu'en 631, le bouddhisme n'existe plus au Gandhara et probablement plus du tout non plus d'art gréco-bouddhique, pour des raisons que nous verrons peut-être si vous restez jusqu'à la fin du cours. C'est à peu près la période à laquelle je m'arrêterai, et c'est la période à laquelle commence la conférence de Madame Filigenzi la semaine prochaine. Alors, deux choses tout de suite, que je vous redirai peut-être parce que c'est une chose importante. Vous trouverez encore, malgré Fouché, malgré bien d'autres, que la vieille route de l'Inde de Bhaktrataxila passait comme le fait la route moderne où les camions-citernes de l'armée américaine se font régulièrement incendiés par Peshawar, le fort de Jamrud, le col de Raiber et le col de Landi, Landi Kotal, pour arriver par Dhaka et re-suivre la rivière de Kaboul jusqu'à Kaboul ou jusqu'à Begram. En réalité, ça n'est pas vrai. On le sait depuis longtemps, ce n'est pas une découverte. La capitale ancienne du Gandhara, celle comprise d'assaut les troupes d'Alexandre, c'était dans la région de Charsada. C'était très probablement, malgré le point d'interrogation de M. Huntington, c'était probablement une ville que l'on connaît sous le nom indien de Pushkalavati, la ville qui a des lotus ou des étangs pleins de lotus et qu'on connaît également sous le nom grec qui correspond à la forme moyenne indienne de Pekelaotis. Et ça correspond au fait que dans l'Antiquité, la route passait par ce qu'on appelle le col de Michni, c'est-à-dire par le long de la rivière de Kaboul directement. C'est une route difficile, avec des passages difficiles au-dessus de la rivière, en particulier ici, et elle a été abandonnée probablement au IIe siècle de notre ère, ou à la fin du Ier siècle, quand Kanishka a bâti sa capitale à ce qui est devenu Peshawar, qui est connu par des inscriptions comme étant Purushapura, la ville de l'homme, la ville de l'homme. Et la fondation de Peshawar correspond à l'ouverture au passage de la Khyber Pass. Il y a d'autres, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ces deux moyens d'atteindre l'Inde, il y a au moins quatre cols différents. Par exemple, la conquête de Babur s'est faite par la région de Rost et du Waziristan, mais c'est quand même celle qui, au cours des âges, a vu passer le plus de gens. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est l'art du Gandhara et ce qu'est le Gandhara, je vais vous montrer un certain nombre de cartes. Éric Olivier a plaqué ici la carte de Huntington que vous avez vue sur le relief tel qu'on l'a par Google. Google qui est maintenant le grand outil des archéologues. Alors, ça n'est pas très visible, mais ce que vous voyez très bien, c'est combien cette petite région est entourée de montagnes. C'est quelque chose dont on reparlera tout à l'heure à propos du grand Gandhara, mais vous voyez que cette petite région de 10 000 km² environ, c'est pas très grand, elle est tout à fait cernée de montagnes, avec un accès par la rivière de Kaboul, que ce soit par Michni ou par la Raiber, et un accès par l'Indus, mais cet accès ici, c'est une sortie en fait, parce que au nord d'Ound, au nord du barrage de Tarbela qui est ici, il n'y a que de la montagne, et de la montagne qu'on mettait 6 mois à 1 an pour traverser avant d'arriver au Xinjiang. Donc par ici, il y a eu très très peu de pénétration. La pénétration s'est faite par là, et la sortie s'est faite par ici, vers Taxila, dans l'autre sens également. Alors, dans l'autre sens, il y a eu des routes, mais qui n'ont jamais eu cette importance. Ça, c'est une véritable autoroute. Là, vous avez des sentiers. Et retenez bien cette image de la montagne. Si l'on prend une autre carte, là, les cartes qui viennent sont extraites de l'atlas officiel du Pakistan. Elles n'ont pas été faites pour ce cours, elles n'ont pas du tout Elles ont été faites il y a 30 ans environ. Elles n'ont pas du tout été faites pour la démonstration que je fais maintenant, qui n'a pas besoin d'être faite d'ailleurs. Vous voyez les taches vertes qui indiquent des sols alluviaux. Et si vous grossissez la tache verte, vous verrez que cette tache verte, qui indique un sol alluvial, et qui est vraiment très différente des autres, vous avez la Taxila, vous avez Islamabad, vous avez Peshawar, la tache verte, c'est très exactement le Gandhara. Le Gandhara est très probablement l'endroit le plus fertile du Pakistan. Et ça s'explique parce que dans un bassin très resserré comme celui que vous venez de voir, vous avez des rivières et des fleuves, l'Indus, qui est le deuxième fleuve de l'Inde, la rivière de Kaboul, tous les affluents de rive gauche de la rivière de Kaboul qui viennent des montagnes du Swat, qui arrivent et qui arrive chargé de débris arrachés à la montagne. L'une des caractéristiques des massifs du Karakoram et de l'Himalaya, c'est qu'ils continuent à se surélever. Et les rivières creusent très profondément leur lit. Et en creusant très profondément leur lit, évidemment, elles se chargent de toutes sortes de débris, et ces débris viennent remplir la cuvette du Gandhara, qui est un des endroits les plus fertiles du Pakistan. Et si vous voulez avoir une idée de ce que c'est les inondations qui ont eu lieu il y a quelques mois au Pakistan. Toute l'eau a commencé par se déverser là. Et c'est une catastrophe pour les gens qui y vivent, mais ensuite, c'est un peu comme les volcans. Ensuite, quand on y rétablit de la culture, ça vous donne des sols extrêmement fertiles. Et en plus, avec la quantité d'eau que je vous ai montrée, hein, si l'on regarde par exemple ici, avec la quantité d'eau qui arrive, vous vous rendez compte que l'irrigation est d'une facilité extrême. Donc ça vous permet non pas une, mais deux ou trois récoltes par an. C'est l'endroit le plus facilement irrigable du Pakistan. Si j'en prends une autre carte, qui est là la carte du blé. Le contraste est beaucoup moins grand, mais vous voyez quand même que dans cette région qui est celle de Peshawar, vous avez au moins autant de blé que partout ailleurs en Afghanistan, au Pakistan. Et si l'on prend ici la carte d'une production récente, probablement, mais qui est extrêmement important, qui réclame beaucoup d'eau, celle de la canne à sucre, la production de sucre, vous voyez que l'essentiel de la production de sucre est concentré autour de Peshawar. Ça vous donne une idée de la richesse de la région comparée à tout le reste, en particulier comparée à ce qu'il y a ici et qui sont les régions dites dans la presse comme étant « tribal », qui sont le Waziristan, etc., qui sont du caillou à l'état pur, avec très peu de cultures possibles. Ce sont les régions où les Américains et les troupes pakistanaises se battent en ce moment contre les talibans et qui ont toujours été des régions qui échappaient plus ou moins au contrôle des gouvernements, tout simplement parce qu'on y crève de faim. Quand on y crève de faim, il n'y a que deux solutions pour sortir, l'émigration, qui est de plus en plus difficile, comme vous le savez, ou la conquête, et c'est de là que sont parties les vagues de conquête musulmane de l'Inde, ou alors le trafic, qui est maintenant du trafic d'armes et du trafic d'opium, enfin, et d'autres drogues. Voici une dernière carte qui vous indique la répartition de l'orge. Vous voyez qu'au nord de Peshawar, vous avez de l'orge et que à peu près dans le reste du Pakistan, vous n'avez quasiment rien. Et en tout cas, certainement pas dans cette région. Ça vous indique l'importance économique de cette région, ça vous indique pourquoi les gens se la sont disputés. Actuellement, elle a une population pachtoune, mais simplement depuis pas très longtemps, moins d'un millénaire, et dans certaines régions, moins de 3 siècles. Ça vous indique aussi pourquoi, à quel point les gens qui avaient passé les montagnes de l'Hindou Kush ou les montagnes du Karakoram et de l'Himalaya, arrivant là, se retrouvaient dans une espèce de petit paradis. C'est le petit paradis du nord de l'Inde. Après, c'est beaucoup plus difficile. Au sud, c'est beaucoup plus difficile. Et au nord, c'est de la montagne de cailloux. Et évidemment, c'est une situation enviable, sauf que comme c'est une situation enviable, il y a beaucoup de gens qui désirent s'y installer. Et c'est donc une région qui a été une terre d'invasion, beaucoup plus qu'une terre de paix. Alors, la semaine prochaine, nous verrons, pas seulement d'ailleurs, mais nous verrons surtout qu'est-ce que c'est que cette notion de grand Gandhara qui a cours maintenant dans la littérature spécialisée depuis une douzaine d'années. Je vous remercie. Le séminaire commence tout à l'heure, salle 2. Et encore une fois, ce ne sera pas un séminaire très drôle.